et on essaye de les valoriser en fait en leur disant ben, aujourd'hui vous êtes la génération qui peut briser les chaînes, qui peut casser toutes ces générations de chefs gueulards, vieux cons, racistes, misogynes, sexistes, etc. Vous êtes la nouvelle génération.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. La boucle est bouclée, comme on dit. Cet épisode de Bouffon est un peu spécial. Non seulement c'est le dernier de la saison, mais en plus, il fait directement écho au premier épisode qui a ouvert cette même saison, il y a bientôt un an. Vous vous en souvenez peut-être, dans Cauchemar sexiste en cuisine, je tendais le micro en septembre dernier à trois femmes travaillant dans la restauration, avec chacune leur parcours propre, chef indépendante, chef qui a fait ses armes dans un palace ou encore chef qui a ouvert son resto, elles dessinaient toutes les trois, à travers leurs récits respectifs, un triste tableau du secteur, celui d'une profession très hiérarchisée dans laquelle prospèrent des conditions de travail souvent ingrates, une trop grande précarité, mais aussi des violences sexistes et sexuelles. À travers leurs témoignages forts et précis, on apprenait en filigrane que le milieu de la gastronomie, aussi tourné vers le bien manger et l'art de vivre soit-il, peut aussi être un lieu hostile pour les femmes. Une certaine culture de la virilité dans un corps de métier historiquement masculin, une constante proximité en cuisine et donc une danse des corps qui travaille en huis clos, une injonction à faire la fête en s'enivrant après le travail, un besoin de se défouler qui génère injustement des brimades et des propos déplacés, tout ceci peut amener à du sexisme, mais aussi à une certaine banalisation du harcèlement sexuel. Et si ce secteur peut être encore plus violent pour les femmes, faut-il le préciser, c'est aussi parce qu'il est d'abord violent tout court, même pour les hommes. La cuisine est un lieu où règne en effet une discipline de brigade, une omerta par peur des représailles, une compétition entre les travailleurs précaires, un goût pour le bizutage et un sentiment d'impunité des harceleurs alimenté par une culture de la virilité. Mais une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on a dit ? La cuisine reste un métier fantastique, un laboratoire génial pour apprendre à travailler en équipe, créer de la nourriture avec de constants défis à l'heure de l'urgence climatique, mais aussi toujours plus d'enthousiasme, celui de décloisonner les pratiques, d'éduquer les plus jeunes au goût, de ramener le plus de gens à table ou encore de partager tout simplement. Alors, comment faire pour que cet espace heureux soit aussi un lieu plus sûr pour celles et ceux qui y travaillent ? Eh bien, figurez-vous qu'en septembre 2020, quelques jours après l'enregistrement de l'épisode de Bouffon, dans lequel elle a accepté de témoigner à propos des violences sexistes et sexuelles, Marion Goetlé m'a rappelé. Au bout du fil, celle qui a créé le Café Mirabel à Paris m'a semblé déterminée. En écoutant l'épisode et en découvrant son propre témoignage accompagné de celui des deux autres femmes, une idée lui est venue, celle de créer une association de femmes chefs et de proposer des interventions au sein des écoles dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Ce bonheur après un éclair de génie, cette excitation dans la voix d'une personne qui vient d'avoir une idée lumineuse, ce sentiment fébrile et joyeux qu'il y a du pain sur la planche, mais qu'un projet engagé en vaut le coup, je m'en souviens comme si c'était hier, il transpirait dans la voix de Marion. Depuis, des manches se sont retroussées et l'initiative est née. Avec bondir.e, c'est le nom de l'asso, Marion, ainsi qu'une vingtaine de chefs dont Manon Fleury, Jade Génin, Victoria Mécuy, Valentine Guenin, Natacha Collet ou encore Minou Sabahi, toutes ces personnes vont à la rencontre des étudiants et étudiantes pour parler des mécanismes de violence, rappeler la définition du harcèlement moral, de l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel et leur donner des clés pour réagir, qu'ils et elles soient témoins ou victimes. Après seulement quelques mois d'existence, l'asso est déjà forte de plusieurs interventions qui ont à chaque fois été des succès. L'autre jour, je suis allée voir Marion dans son antre, le Café Mirabel, afin qu'elle me raconte tout ce qui s'est passé depuis le premier épisode de la saison 4 de Bouffon.
Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il s'est passé beaucoup de choses parce que déjà, moi, je me rappelle très bien de la fois où on a enregistré le dernier podcast. C'était, moi, j'étais un peu fatiguée, un peu la tête dans le boulot et je t'ai raconté tout ça comme je le raconterais à une copine ou à n'importe qui. Enfin, je me trouvais pas claire. Et puis, je me rappelle aussi beaucoup de tes réactions qui m'étonnait en fait, parce que j'avais l'impression de te raconter quelque chose d'assez banal finalement, et de te voir en face de moi être un peu choquée par ce que je te racontais, ben au début j'ai pas trop compris. Je me suis dit c'est bizarre, on connaît le milieu de la restauration. Est-ce que c'est si étonnant ce que je raconte? Parce que en fait, le fait d'avoir participé au podcast avec toi, de le réécouter après, et puis du coup, d'être dans cette lancée, d'en parler avec plus de personnes, ça m'a fait réaliser en fait ce qui se passe vraiment dans le monde de la restauration, et notamment ce que moi j'avais vécu. Je pense que je l'avais pas encore réalisé. J'avais pas réalisé le niveau de violence qu'il y a dans la restauration, parce que effectivement, quand on rentre dans le métier, on nous dit que c'est un métier dur, donc c'est comme quelque chose d'inhérent à la restauration d'obligatoire presque. Et du coup, le fait d'en parler avec toi, ça m'a fait réaliser que c'était pas normal. Ça m'a fait réaliser que la banalité de ce que je t'avais raconté n'était pas normale et n'était pas non plus une fatalité. Et en fait, il en découle plein de choses positives, parce que du coup, grâce à ça, j'ai pu rencontrer d'autres femmes chefs, j'ai pu parler avec d'autres femmes chefs et d'autres personnes du milieu de la restauration qui m'ont donné leur point de vue et qui m'ont aidé à m'ouvrir et à ouvrir mes perspectives. Et que effectivement, on dit toujours que, notamment dans les gastros, ça se passe toujours comme ça, et ça m'a aidé à comprendre que c'est un problème qu'il faut endiguer et que c'est absolument pas obligatoire et nécessaire. Et donc ça m'a donné envie d'en parler à des jeunes pour qu'ils comprennent qu'eux n'avaient pas besoin de passer par là pour devenir des cuisiniers, tout simplement, quelle que soit leur ambition et quel que soit leur désir d'avenir et quel que soit leur désir d'entreprise qu'ils ont envie d'intégrer, de type d'entreprise qu'ils ont envie d'intégrer, que ce soit des petites entreprises, des grosses entreprises, des restaurants gastronomiques, des restaurants traditionnels, de la restauration collective. Ça m'a fait comprendre qu'il faut les informer, qu'on n'a pas besoin de passer par là pour devenir cuisinier, quel que soit le niveau qu'on a envie d'avoir.
Je me rappelle d'un coup de fil qu'on a eu juste après cette première interview. Et effectivement, tu me disais, j'ai réalisé que c'est pas parce que ça a lieu partout que c'est normal, que c'est un horizon indépassable. Et j'ai l'impression du coup que, tu vois, c'est comme ce qu'on dit des syndicats dans les entreprises. Parfois, quand ça se passe pas méga bien dans une entreprise, les ouvriers, ils ont une pause clope, une pause déj, pour ensuite avoir l'idée d'échanger ensemble, se dire, c'est pas normal qu'on soit traité comme ça, créer éventuellement un syndicat, une mobilisation. Et je fais un détour par cet exemple, parce que typiquement, vous, dans le milieu de la restauration, vous n'avez pas assez de ces endroits-là. Vous êtes tellement toujours dans le jus, surtout dans les palaces, qu'il n'y a pas vraiment l'espace de se poser et d'échanger vraiment et de se dire, en fait, c'est insupportable ce qui se passe et ça peut changer, ça n'a pas à être comme ça, quoi. C'est pas parce que c'est comme ça partout que ça doit être comme ça partout. Et ce que j'ai trouvé hyper courageux dans ce que tu m'as dit après, c'est OK, maintenant que j'ai réalisé ça et que j'en ai parlé avec plein d'autres femmes, je ne vais pas rien faire. Je vais prendre le problème à sa source et je vais parler directement aux gens qui sont en formation pour être les futurs chefs et chefs eux. Est-ce que tu peux revenir à ce moment-là en fait et nous le raconter ce que tu as fait en fait pour commencer à mettre en place ces interventions que tu proposes aujourd'hui dans les écoles?
Alors effectivement, déjà la chose qui est importante sur laquelle je voudrais revenir aussi, c'est que quand on vit pas des violences physiques, on a l'impression que c'est moins grave. D'où le fait que ça a mis du temps à ce qu'on comprenne que c'était vraiment... Parce que moi, je comprenne que c'était pas moins grave parce que c'était pas des violences physiques. Et effectivement, notamment dans le podcast, moi, ce qui m'a touchée, c'est pas le passage où je parle, mais c'est le passage où... j'entends la jeune fille qui raconte ce qui lui est arrivé dans ce fameux palace et surtout le fait qu'elle ait quitté le métier quitter Paris, arrêter la restauration, qu'elle ait mis beaucoup de temps à s'en remettre. Ça, ça a été un vrai déclic pour moi parce que je me suis dit, moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir dépassé ça, de pouvoir exercer mon métier comme je l'entends, comme je le veux, comme je l'aime et de pas avoir perdu la passion pour ce métier. Mais quand j'ai réalisé le nombre de personnes qui aiment notre métier, qui sont passionnées par la cuisine, qui ont des rêves de vivre de la restauration et de travailler dans la restauration et qui quittent ce métier à cause des conditions de travail, là je me suis dit, il faut faire quelque chose. Déjà, primo pour le bien du milieu de la restauration, parce qu'à un moment donné, on le sait, on est toujours en pénurie de personnel, et on est en pénurie de personnel, mais on ne se pose pas les bonnes questions. Pourquoi les gens arrêtent de faire ce métier-là? Donc effectivement, il y a les horaires qui sont difficiles, il y a les salaires qui sont trop bas, il y a plein de choses qui font que... Mais si on travaille dans des conditions qui sont juste saines et pérennes, peut-être qu'on aurait plus de personnel dans la restauration, peut-être qu'on aurait moins de gens qui quittent ce milieu, parce qu'on sait qu'il y a plus de 100 000 personnes qui ont quitté la restauration depuis le premier confinement, parce que justement, ils ont eu le temps de se poser et de se dire « mais attends, mais je travaille comme un fou ». Je fais des horaires de malade, j'ai pas de vie privée. Et en plus, je me fais allumer la tronche toute la journée. Non, c'est pas viable, quoi. Et donc, tout ça, je l'ai réalisé, notamment en entendant cette jeune fille. Ça m'a brisé le cœur. Franchement, ça m'a brisé le cœur parce que je me suis dit, c'est terrible d'être passionnée par un métier qui est si beau, parce que la restauration, c'est quand même un métier magnifique, et de le quitter parce que juste à un moment donné, on dit, stop, quoi. Stop, j'arrête de subir tout ça, et c'est humain. Et en fait, le problème, c'est que souvent, quand on est jeune, on entend dans les cuisines, lui, il est trop faible pour rester dans les cuisines, dans la restauration générale. Il est trop faible pour rester dans ce milieu, il n'a pas les épaules pour. Non, mais ça veut dire quoi, pas avoir les épaules pour? Tout le monde a sa place dans la restauration. C'est tellement vaste comme milieu. Et effectivement, comme tu le dis très bien, il y a aussi ce problème qu'il n'y a pas de solidarité dans les équipes, qu'on se sent seul et que quand on vit quelque chose qui est anormal, il y a personne qui vient nous dire « Putain, c'est chose qui t'est arrivée, j'ai entendu, j'ai vu, machin. Si tu veux en parler, si tu veux qu'on boive une bière après le service, moi je suis là. Voilà, juste une épaule en fait. Et ça, on en parle beaucoup dans les écoles, on le dit. Des fois, vous n'êtes pas victime, mais vous êtes témoin de ce qui se passe. Et c'est tout aussi important. On leur dit toujours, vous n'avez pas besoin d'être... des héros, des Robins des Bois, d'aller sauver toute l'équipe de la cuisine. On vous demande pas d'aller péter la gueule au chef. C'est pas ce qu'on dit. On vous demande pas de faire ça. On vous demande pas de mettre en péril votre poste ou votre stage pour défendre toute l'équipe, parce qu'on a bien conscience que c'est des situations qui sont compliquées. Mais par contre, un petit mot à la fin du service à la personne qui s'est fait violenter ou allumer la tronche ou n'importe quoi, un petit mot à la fin du service en disant moi j'ai vu, j'ai entendu, si t'as besoin d'en parler, je suis là, ou tu sais, si t'as besoin, il y a des associations qui existent, ou il y a la médecine du travail, ou alors tu peux aller en parler au DRH peut-être, ou tu peux, enfin voilà, trouver des personnes de confiance, avoir le recul que la victime n'a pas en fait, parce qu'elle est elle vit son traumatisme, donc elle n'a pas le recul. Elle se sent forcément seule. L'isolement, c'est un des principes les plus importants de ces mécanismes de violence. Donc, rien que la sortir de l'isolement, c'est déjà un grand pas. C'est pour ça qu'on va dans les écoles, c'est pour dire, ce qui se passe dans les cuisines, c'est pas normal, pour expliquer les mécanismes de violence qui font que quand on est victime, on peut reconnaître qu'on est dans ce mécanisme-là, alors que souvent c'est des violences qui sont aussi peut-être un peu sous-jacentes ou qui sont quotidiennes, et du coup on se rend pas compte parce qu'en fait on s'est pas pris une tarte dans la tronche, on se fait juste insulter quotidiennement, donc on se rend pas compte qu'on est dans cette spirale très négative et très néfaste. Déjà, donner les clés aux jeunes pour leur expliquer, quand vous êtes dans telle situation, telle situation, telle situation, telle situation, c'est pas normal. Mettre des mots dessus, expliquer ce que c'est un harcèlement moral, expliquer ce que c'est un harcèlement sexuel, une agression, un viol. Tout ça, c'est important aussi de leur expliquer qu'ils puissent mettre des mots dessus, de leur donner les clés, de leur donner des solutions, même si on n'a pas toutes les solutions et même si on n'est pas... on n'a pas la science infuse, donc on ne sait pas forcément toujours répondre parfaitement aux questions, ou on ne sait pas donner des solutions A ou B, parce que ça serait trop simple, mais au moins déjà libérer la parole, venir en parler et aller dire, bah voilà, vous avez telles ambitions, vous voulez aller travailler dans tels établissements, c'est très bien, faites-le si vous en avez envie, allez-y, restez si vous en avez envie, mais sachez que subir des choses comme ça, c'est pas normal, et si vous choisissez d'accepter de subir des brimades quotidiennes, parce qu'il y a plein de cuisiniers qui acceptent, comme moi je l'ai fait, qui disent, ben voilà, moi j'ai envie de travailler dans cet établissement, donc tant pis, le chef c'est un connard, mais je reste. Si vous décidez d'accepter ou de rester parce que vous en avez envie, nous on n'est pas là pour vous dire quitter votre stage, ou on n'est pas là pour vous dire ce qu'il y a à faire, on est là pour vous aider à décoder ce qui est normal de ce qui ne l'est pas, ce qui peut arriver comme voilà, un coup de stress, un coup d'énervement dans un service parce que tout s'est mal passé, parce que tout le monde est arrivé en même temps, parce qu'on sait que dans la restauration, ben des fois il y a des moments de stress, il y a le coup de feu, il y a tout ça. Donc on essaye de mettre des mots précis et sur des situations et d'expliquer que voilà, ça peut arriver. Le chef qui une fois a une mauvaise humeur, qui une fois est fatigué, qui une fois pousse une gueulante parce qu'il n'est pas content de ce qui s'est passé dans l'équipe, ça peut arriver. Et de faire bien la différence entre ça et ce qui n'est pas normal, de violence quotidienne, etc. Et on essaye de les valoriser en fait en leur disant ben, aujourd'hui, vous êtes la génération qui peut briser les chaînes, qui peut casser toutes ces générations de chefs gueulards, vieux cons, racistes, misogynes, sexistes, etc. Vous êtes la nouvelle génération. Donc, parmi vous, il y en a plein qui feront de la cuisine leur métier. Encore une fois, que ce soit dans des établissements étoilés ou non, la question n'est pas là et on s'en fiche finalement. Mais est-ce que vous ne voulez pas être la génération qui met en place des cuisines saines, des atmosphères de travail saines, agréables, pour avoir une pérennité dans l'entreprise? Et ça, c'est important parce que ça leur donne un certain pouvoir, en fait. Et c'est super important. Et après, évidemment, on leur parle de management positif, on culpabilise personne non plus, on leur explique que nous aussi, on a fait des erreurs de management, que quand on est arrivé à la tête d'équipe, qu'on ne savait pas manager, qu'à l'école hôtelière, on ne nous apprend pas à manager, ce qui est quand même un gros souci, je trouve, qu'on ne nous parle pas, en fait, tout simplement, de management, du principe du management en général. Donc, qu'on a tous fait des erreurs de management, qu'on s'est tous énervés sur des choses où il ne fallait peut-être pas s'énerver, qu'on a tous été des fois durs ou des fois de mauvaise humeur ou des fois injustes, etc. Mais qu'on s'est posé les questions, qu'on s'est dit comment on veut travailler, dans quelles ambiances on veut travailler, et qu'on a modifié tout ça pour arriver à des atmosphères de travail qui sont saines.
Rien que cette phrase, avoir les épaules pour, ou alors être trop faible, ça renforce cette idée que cette violence, elle serait complètement normale. Alors qu'en fait, comme tu le disais, le monde de la restauration ne devrait pas être basé sur ce critère. En fait, on est d'abord là parce qu'on a envie de bien travailler, de travailler en équipe, de nourrir les gens, d'être créatif, pas pour notre capacité à endurer en fait des violences, des humiliations quotidiennes. C'est pas ça le but.
En fait, notre métier il est tellement large qu'il y a de la place pour tout le monde. Qu'il y a des gens qui se sentent à l'aise à gérer des équipes de 50 personnes, comme il y a des gens qui sont d'excellents cuisiniers et qui se sentent mal à l'aise dès qu'on leur met quelqu'un dans les pattes. Mais heureusement, on a des grands hôtels, on a des petits cafés, on a des grands restaurants, des petits restaurants, des bistrots, des traditionnels, de la restauration collective. On a de tout. On a des traiteurs, des pâtissiers, des boulangers, des gens qui se lèvent très tôt, des gens qui se couchent très tard, des gens qui travaillent en journée, qui travaillent de nuit, qui travaillent en coupure. On a de tout.
Est-ce que dans ce temps d'échange, il y a déjà eu des moments de débat autour de certains points, ou est-ce que c'est plutôt un consensus que vous observez chez eux?
Alors déjà, des fois, on sent qu'ils sont un peu gênés d'en parler. Des fois, il y en a d'autres qui en ont un peu gros sur la patate et qui ont envie de dire des choses parce que c'est des sujets qui les touchent. Des fois, on s'est retrouvés aussi dans des situations un peu cocasses où on a un jeune qui va nous raconter que son expérience, elle a été terrible parce qu'il a épluché trop de légumes. Donc là, bah, forcément, on est obligé de remettre un peu les choses dans le contexte, de dire, bah voilà, Le métier de cuisinier, c'est pas juste faire des jolis dressages à l'assiette, c'est du nettoyage, c'est de l'épluchage de légumes, c'est voilà, etc. Donc c'est normal, ça passe par là. Donc des fois on est obligé de, mais c'est super intéressant pour nous et c'est super chouette pour nous et ça nous permet aussi de leur dire, de leur parler vraiment concrètement de notre métier et de leur dire attention, prenez pas ça comme des punitions quand on vous demande de faire du nettoyage ou de faire des épluchures, mais plutôt posez-vous la question comment on nettoie correctement une hotte. Pourquoi on la nettoie une fois par semaine, par exemple, ou deux fois par semaine? Qu'est-ce qui va se passer si on nettoie pas bien les hottes? Eh ben, le gras va s'accumuler, on risque un incendie. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Et puis aussi, on leur dit, prenez pas ça comme des punitions quand vous épluchez des légumes, mais demandez-vous plutôt d'où vient le légume, si c'est bien la saison, est-ce qu'il sent bon, est-ce que c'est un beau légume, est-ce qu'on a envie de le travailler, comment on va le cuisiner, profitez-en pour observer ce qui se passe en cuisine quand vous êtes sur une tâche un peu longue, profitez-en pour poser des questions sur le produit, etc. etc. Donc c'est aussi chouette pour nous parce qu'effectivement, comme on est dans le métier, ben, ça nous permet de partager avec eux sur des choses qui ne sont pas que la violence, parce que forcément, c'est des sujets un peu lourds. Donc c'est un peu lourd pour eux comme pour nous de parler que de chefs connards qui vont nous infliger certaines choses. Donc ça, c'est hyper positif pour nous aussi. Ça nous fait du bien de sortir un tout petit peu du cadre et de pouvoir avoir des discussions un peu plus générales.
Est-ce que à l'inverse, il y a eu des moments plus difficiles où des témoignages à l'issue de vos interventions ont émergé et où vous êtes rendu compte que sur tel ou tel cas, il fallait suivre en fait un élève, une élève, dans un cas par exemple de violence sexiste ou sexuelle?
Alors on n'a pas eu le cas encore pour l'instant avéré durant les interventions parce que ben, déjà les classes sont assez nombreuses, donc prendre la parole sur des... Nous on reste un petit peu, on attend vraiment que tous les élèves soient partis avant de sortir, donc ça permet aussi que s'il y a des élèves qui ont envie d'attendre que tout le monde soit sorti et qui viennent à la fin, ben ça leur permet de pouvoir venir nous parler. Mais surtout ce qu'on leur dit aussi, c'est de pas hésiter à se rapprocher de l'infirmière, de l'assistante sociale. Et on n'a pas des retours de choses qu'on pourrait dire gravissimes pour l'instant dans les interventions. Ça veut pas dire que ça s'est pas passé, mais ça veut dire que de toute façon, prendre la parole devant tous ses camarades en disant ben moi j'ai été abusée sexuellement, c'est quasiment impossible que ça arrive parce que c'est très compliqué. Mais par contre, on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a l'infirmière tout le temps au sein de l'école, qu'on peut aller voir à n'importe quel moment, qu'il y a tel numéro au sein de l'école, que les personnes sont là pour prendre en charge. Et on insiste bien sur le fait qu'il ne faut pas rester seul et garder ça pour soi et qu'il faut pouvoir en parler. Mais c'est vrai qu'il y a des situations qui sont compliquées, même pour nous, parce que moi, quand je raconte certaines choses violentes et qu'après, les jeunes me disent... Mais du coup, maintenant, si c'était à refaire, tu referais quoi? Et que je leur dis, ben, je retournerais dans cet établissement parce que j'ai appris plein de choses. Forcément, pour eux, c'est un peu contradictoire. Mais alors, je leur dis bien, je retournerais dans cet établissement. Mais je leur dis, j'ose espérer, j'aurai le courage d'aller voir le chef en lui disant, voilà, moi, je suis contente d'être là parce que j'apprends plein de choses, mais je peux pas accepter qu'on me dise des choses par rapport à ma vie sexuelle ou par rapport à mon physique. Je peux pas l'accepter. Je trouve que ça sort du cadre professionnel. Donc, c'est ce que je leur dis. Je leur dis, j'espère que j'aurai le courage de dire ça. Mais effectivement, je retournerai parce que j'ai appris plein de choses. Et il est là un peu le paradoxe. Et c'est là toute la complexité de nos interventions. Et après, voilà, ce que je leur dis aussi, c'est que peut-être que si j'avais eu ces interventions, peut-être que je ne serais pas partie de ces stages, peut-être que je n'aurais pas eu le courage d'aller voir le chef, mais en tout cas, j'aurais eu déjà la connaissance du fait que ce n'est absolument pas normal. Alors que en effet, moi, je subissais et je trouvais ça normal. Et en fait, je me disais, déjà que je suis une femme et que je ne suis pas censée être en cuisine, je ne vais pas en plus me plaindre parce qu'on me parle comme ça.
J'avais aussi une question, Marion, sur... comment ça a été reçu par les écoles que vous avez démarchées pour proposer ces interventions? Est-ce qu'elles étaient toutes partantes pour vous accueillir?
Alors, au niveau des écoles, ça a été plutôt bien reçu. En tout cas, nous, on a atteint notre but puisqu'on fait les interventions. Et si tu veux, nous, ça ne nous intéresse pas de savoir si l'école est contente, pas contente, si elle a envie qu'on fasse... les interventions ou pas, notre sujet, il n'est pas là. Notre sujet, il est on veut aller voir les jeunes, on veut miser sur l'avenir, on veut les prévenir et on veut les accompagner si c'est nécessaire. Et là où c'est notre problème et là où on a envie d'agir un petit peu, c'est de dire, nous, on fait le job avec les élèves, vous faites le job avec les profs, parce que ne nous voilons pas la face, n'imaginons pas que tous les profs sont absolument parfaits. Moi, j'ai de la chance d'avoir des apprentis et des stagiaires qui viennent de plein d'écoles différentes. Il y en a plein qui ont des super profs dans plein d'écoles et dans des écoles très réputées. Il y en a qui ont des mauvais profs, qui agissent mal. Donc arrêtons de fermer les yeux, ça passe déjà par l'école. On demande déjà à ce que dans l'école, les profs soient exemplaires. Donc ça passe par quoi ? Ça passe par des formations au niveau des professeurs, ça passe par des réunions, ça passe par des remises à l'ordre sévères, parce que, encore une fois, arrêtons de nous voiler la face. Quand il y a des profs qui agissent mal, une partie du corps enseignant ou de la direction est forcément au courant. Il y a forcément des bruits de couloir, il y a forcément des choses qui se sachent, il y a forcément des remontées. Il y a pas, les cuisines dans les établissements scolaires ne sont pas isolées. Les profs travaillent les uns avec les autres et donc les profs savent très bien s'il y a d'autres profs qui se comportent mal. Donc déjà, là aussi, à l'intérieur du système scolaire, il faut enrayer le problème. Parce que derrière, on a très bien l'infirmière et l'assistante scolaire qui sont là, qui sont à l'écoute, qui sont des personnes prévoyantes, etc., qui prennent le problème à bras-le-corps. Bon, très bien. Mais nous, quand on voit des jeunes qui partent en stage, ça se passe mal, et ils reviennent, et le chef leur dit « Ben non, mais machin, c'est pas comme si » ou « Ben râle pas, c'est comme ça dans la restauration » ou « Hésite à changer de stage quand... » Ben on le sait, hein, on l'a vu avec certains témoignages de femmes qui sont maintenant chefs qui disaient « Mais moi, je me suis mis à genoux et j'ai pleuré dans le bureau pour qu'on me change de stage et mon prof s'est foutu de ma gueule. » À un moment donné, non. Donc, on demande à eux de prendre des responsabilités. Moi, j'aimerais qu'il y ait des choses qui bougent au niveau de l'éducation nationale complète, quoi, qui est au niveau du... Moi, je peux pas parler des autres formations parce que je connais pas d'autres métiers que la restauration, donc c'est pour ça qu'on parle de la restauration. S'il y a des problèmes dans les autres formations, il faut le faire aussi, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais au niveau des écoles hôtelières et des formations dans la restauration, mettre en place des formations de management, de bien-être dans les restaurants, peut-être, ou des interventions qui passent pas par nous, par des associations, mais qui passent par un programme de l'éducation nationale, et mettre en place des formations en interne obligatoires dans toutes les écoles sur les professeurs. Parce que en fait, les professeurs de cuisine de restaurant sont quasiment... toujours des professeurs qui viennent du milieu professionnel, donc on travaille dans la restauration, et qui à un moment donné sont devenus professeurs, ont passé un diplôme et sont devenus professeurs d'école. Donc ça arrive que ce sont des chefs qui ont exercé des violences sur leurs collaborateurs à l'époque. Et il ne faut pas penser que, comme ils sont devenus professeurs, la diplomatie est arrivée en eux par magie, quoi. Il y avait un prof dans mon école hôtelière, notamment un prof de cuisine que moi j'ai jamais eu, mais qui faisait pleurer la moitié de ses élèves. Et je voyais des élèves sortir de ses cours à chaque fois en pleurs. À un moment donné, nous on veut bien venir, je veux dire, on vient bénévolement dans les écoles pour faire des interventions, pour essayer de faire changer le milieu professionnel, aux directions d'école de prendre leurs responsabilités au sein même des établissements. C'est ça qui nous importe.
Ce que dit Marion à propos du devoir d'exemplarité des écoles est primordial, car pour changer les mentalités en profondeur, il est urgent non pas seulement de donner à la nouvelle génération des clés pour se défendre, mais aussi d'exiger du corps enseignant plus de respect, d'encadrement et d'écoute. Après notre enregistrement, Marion m'a parlé de ces écoles, si nombreuses encore, à continuer à envoyer des étudiants et étudiantes en stage dans des endroits problématiques, alors même que des soucis ont pu être relevés les années précédentes et que d'autres élèves ont eu à arrêter d'urgence leur formation. À ces écoles qui continuent d'envoyer des jeunes au casse-pipe pour offrir du personnel à moindre coût à des établissements toxiques, Marion demande plus d'intransigeance, pour que le harcèlement ne soit plus un horizon indépassable dans le milieu de la restauration. Merci à Marion Guetlet de m'avoir donné de son temps pour parler de l'association bondir.e. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Donia Wada. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux.